Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler de la prière. De la prière puissante. Parce que nous sommes dans un temps où ce n'est pas le moment de nous refroidir, de nous endormir en ce qui concerne la prière. La prière est une arme puissante. Et vous savez, Jésus, quand vous regardez ce qu'il faisait, il priait. Et nous avons besoin, nous chrétiens, d'entretenir notre vie de prière. D'avoir une vie de prière puissante et victorieuse. Parce que l'ennemi n'aura aucune place dans notre vie lorsque nous prions. Nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Nous voyons que le monde a des grandes turbulences. Mais le Seigneur a dit, pour ceux qui se tiennent dans ma présence, il n'y a rien à craindre. Et se tenir dans la présence de Dieu, c'est entretenir notre vie de prière. Jésus a dit, veillez et priez, afin que vous ne soyez pas surpris quand toutes sortes de choses vont se passer sur la terre. Nous ne voulons pas être surpris, nous ne voulons pas être bouleversés ou être déstabilisés. Mais si nous entretenons une vie de prière fidèle, si nous veillons et prions, frères et sœurs, nous ne serons pas surpris. Le Seigneur nous préparera nos cœurs pour affronter toutes sortes de situations. Amen. Alors prions ensemble. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin pour chaque personne que tu as conduite dans ta maison ce matin. Dans ce lieu, afin que chacun reçoive de toi une onction et une force et une dimension plus grande encore, afin d'aller de l'avant. Seigneur, tu nous as appelés à marcher avec toi et à aller au-delà de nos limites parce que tu nous conduis là où tu veux, Seigneur. Tu nous conduis plus loin que ce que nous pensons, plus haut que ce que nous imaginons, parce que tu es notre Dieu. Tu as dit, suivez-moi et je ferai de vous des personnes qui vont pêcher des âmes, qui vont aller chercher les pêcheurs et les amener dans la lumière. Merci Père. Bénis cette parole, Seigneur, conduis-la afin qu'elle soit en bénédiction à chacun dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Eh bien ce matin, ouvrons notre Bible dans l'évangile de Matthieu. Nous allons voir trois points. Premièrement, nous allons aller dans Matthieu 6. Le Seigneur a parlé à ses disciples et aux gens qui l'entouraient. Et il a donné vraiment des enseignements. Et souvent, ces enseignements, on les prend dans le naturel, alors qu'il y a une portée spirituelle. Regardez dans Matthieu 7, verset 7. Il est dit ici, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Hein, c'est Jésus qui parle. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Voilà une parole de Jésus qui est puissante et qui contient trois volets. Le premier, bien sûr, c'est le plus simple. Et il est parlé de la prière ici, bien sûr. Il est parlé de la prière de demande, demander. Demandez et l'on vous donnera. C'est ce que Jésus a écrit. C'est ce que Jésus, a dit. C'est ce qu'il est écrit, demander. Donc ça, c'est quelque chose que nous savons faire, nous savons demander. Et il faut demander à Dieu. C'est la première étape dans notre vie spirituelle de demander à Dieu. Demander de l'aide dans notre vie personnelle, demander que notre famille vienne dans la lumière et soit sauvée, demander pour nos finances, demandons des choses. Nous avons toujours à demander. C'est une prière de base. Et le Seigneur dit, si vous demandez, eh bien, il vous sera donné. Celui qui demande reçoit. Donc c'est important d'avoir une vie de prière établie sur ce fait de demander. Et lorsque nous demandons, eh bien, nous recevons de Dieu et cela fortifie notre foi. Cela établit entre Dieu et nous des relations de confiance et des relations qui sont importantes parce que nous avons besoin de développer tous les jours une relation de confiance et d'amour avec Dieu. C'est pourquoi le fait de demander est une clé et c'est un premier pas dans la prière, dans la vie de prière. Mais ça n'est pas tout. Le Seigneur ensuite déclare qu'il nous faut bien sûr demander et on nous donnera. Qui nous donnera? Dieu répondra à notre prière. Ce que nous demandons nous sera donné. Et il nous est dit ensuite de chercher. Et donc chercher, ça ne veut pas dire chercher des choses sur la terre. Ça veut dire chercher Dieu. Cherchons Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous dites, je l'ai trouvé. Oui, moi aussi, je l'ai trouvé. Mais Le Seigneur a besoin que nous nous approchions de lui, que nous découvrions quelque chose de plus merveilleux encore que ce que nous connaissons. La connaissance de Dieu est importante parce qu'elle est éternelle et elle est sans fin. Je crois que même lorsque nous serons dans le paradis avec Jésus, nous continuerons de découvrir et de découvrir des choses extraordinaires. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit à ses disciples, cherchez, cherchons Dieu. Tandis qu'il se trouve, cherchons Dieu. Souvent, on a pensé que chercher, ça voulait dire, bon, je ne suis pas sauvé, donc il faut que je cherche Dieu. Mais non, il s'adresse à des personnes qui savent déjà demander. C'est la prière de base, je demande à Dieu. Il répond à mes besoins. Mais chercher Dieu, c'est autre chose. C'est prendre du temps. C'est entrer dans l'intimité de Dieu. C'est une deuxième étape qui est plus importante que la première, qui va plus profondément, qui va plus loin. Lorsque je demande à Dieu, je sais exactement ce que je vis. Tous les jours, j'ai besoin de demander des choses à Dieu. Je lui remets ma journée. Je lui demande d'aplanir les difficultés s'il y en a. Je lui demande de prendre soin de ma famille. Je place ma famille sous le sang de Jésus, l'Église sous le sang. Je fais des prières de demande nécessaires tous les jours. Et puis ensuite, il y a cette autre part de la prière qui est faite de « cherchons Dieu ». Dieu veut se révéler. Il veut se révéler à nous d'une façon encore différente, d'une façon plus importante encore que ce que nous savons aujourd'hui. C'est pourquoi le chercher demande du temps. Nous sommes tous des gens pressés. Nous sommes tous des gens qui avons des occupations, du travail et les journées sont tellement rapides. Mes frères et sœurs, nous devons apprendre à prendre du temps pour Dieu et à le chercher. Pour lui-même, quand je le cherche, je ne demande rien. Je le cherche, je prends la parole de Dieu et je chante des louanges au Seigneur et je l'écoute aussi. Et je veux recevoir de lui. Et j'ai soif de lui et ça prend du temps. Dieu veut qu'on prenne du temps pour lui. C'est pourquoi il nous dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Cherchons Dieu, frères et sœurs, dans le sens où allons plus profond dans la vie personnelle avec Dieu. Allons plus profond car Dieu veut se révéler. Le Seigneur est un Dieu qui se révèle. Vous le connaissez aujourd'hui, mais demain, il se révélera à vous différemment. Si vous prenez du temps pour lui, vous allez le chercher. Vous savez, rappelez-vous, lorsque à Antioche, les disciples, il y avait des apôtres, il y avait des prophètes, ils étaient là pour un temps, ils cherchaient Dieu. Ils prenaient du temps, ils ne demandaient rien. Ils étaient entre eux et ils adoraient le Seigneur, ils goûtaient à sa présence. Ils étaient là simplement pour le Seigneur. On dit, la parole de Dieu nous dit, ils servaient le Seigneur. Vous savez, servir le Seigneur, Dieu nous sert tout le temps. Dieu nous sert, n'est-ce pas vrai? Alors servir le Seigneur, c'est l'adorer et lui dire, Seigneur, je t'aime, j'écoute ta voix. Tu parles à mon cœur, Dieu nous parle tout le temps. C'est le chercher. Cherchez Dieu et vous trouverez. Vous allez le découvrir d'une nouvelle façon parce qu'il va se révéler à vous. Ça fait partie de la prière. Et c'est simplement trois étapes, mais vous savez, il y a une multitude de façons de prier. Mais dans cette parole de Matthieu 7, chapitre 7, verset 7, Dieu nous dit trois étapes qui vont, on peut dire, de plus en plus profond dans la vie de prière. Et si nous sommes habitués à demander, frères et sœurs, aujourd'hui, apprenons, prenons du temps, je sais qu'on ne peut pas le faire tous les jours, on a un emploi du temps, etc. Mais quand nous avons du temps de repos, des temps à part, je prends du temps, Seigneur, pour toi, je veux te chercher. J'ai besoin d'écouter ta voix. J'ai besoin que tu me révèles des choses sur moi. J'ai besoin que tu saches, que tu montres si mon cœur est droit, si ma voix est juste. J'ai besoin de t'écouter. Et je prends du temps. Je cherche mon Dieu. Amen. Et lorsque vous cherchez Dieu, vous le trouvez. Car Dieu se révèle. Dieu se révèle à votre esprit. Dieu se révèle à vous. Et donc vous allez avoir une image intérieure beaucoup plus large et beaucoup plus grande de ce qu'est votre Dieu. Parce que ce qu'il va vous révéler de lui va vous établir encore plus fortement dans sa présence. Donc vous voyez, cherchons Dieu. Lorsqu'on le cherche, c'est avec le Saint-Esprit qui est en nous. Nous le cherchons avec notre cœur. Bien sûr qu'il parle à notre cœur et que ça passe par notre pensée. Mais nous avons besoin de le chercher avec notre esprit qui est vivant. Allez, nous venons avec des louanges, nous venons avec des actions de grâce et nous disons, Seigneur, je veux recevoir quelque chose de toi. Révèle-toi à moi aujourd'hui encore. J'ai besoin de ta révélation. J'ai besoin de te connaître. J'ai besoin de savoir quelque chose de plus. J'ai besoin de comprendre des choses même sur moi-même ou sur mon travail ou sur ma famille. Toi seul peux me révéler les choses cachées que je ne vois pas. Hein, on va le voir tout à l'heure dans Jérémie 33. Dieu veut se révéler. Donc je le cherche. Et je le cherche et il va se faire connaître à moi. Parce que je le cherche. C'est une démarche spirituelle, frères et sœurs. Si vous n'attendez rien de Dieu, vous demandez, puis vous partez, Seigneur, dans 5 minutes. J'ai 5 minutes pour toi. Merci, Seigneur. Amen. Et c'est terminé. On a besoin de plus. Et le Seigneur attend. Il est prêt pour nous révéler davantage. Mais ça se passe entre vous et lui. C'est pourquoi Jésus a dit, hein, dans Matthieu 6, lorsque tu pries, eh bien, entre dans ta chambre. Ça veut dire, reste seul. Éloigne les distractions. Ferme ta porte. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le temps de chercher Dieu est un temps personnel, où on met de côté les distractions et les excitations et les bruits de ce monde, et on se place de façon à écouter notre Seigneur, à écouter aussi notre propre cœur, et à simplement nous attendre à lui. Et également, dans ce temps d'attente, il va venir des choses qui vont monter dans notre cœur, des demandes, des questions peut-être. Et le Seigneur va se révéler. Il faut prendre du temps. Parce que Dieu, lui, il a tout son temps. Et lorsque nous entrons dans cette étape, frères et sœurs, c'est une étape où nous approfondissons notre vie personnelle avec Dieu. Il y a un livre qui est sorti, mais j'ai oublié le titre, qui parle justement, dans les temps de silence et de repos avec Dieu, Dieu s'est tellement révélé à moi. Hein, c'est un livre qui vient de sortir, je ne sais plus dans quelle maison d'édition, mais qui est excellent, qui rappelle que nous sommes tellement bruyants et nous aimons la prière de combat et nous intercédons et nous prions, c'est normal, mais il y a des temps pour nous-mêmes où il nous faut chercher notre Dieu. Ça, c'est personnel. Ça se passe entre nous et le Seigneur, dans un endroit calme, dans un endroit à part où on peut fermer les yeux et être en communion avec lui. Et c'est un temps qui a besoin de prendre du temps. Hein? Si on a la montre, ça ne va pas. Et ça, c'est difficile pour nous. Et ça prend du temps. Mais c'est nécessaire. C'est une deuxième étape. Et c'est une étape plus approfondie qui vous permettra d'aller plus profond dans la présence de Dieu. Et puis ensuite, vous voyez, le Seigneur va dire frappez, frappez et l'on vous ouvrira. Et donc, le terme de frapper veut dire qu'il y a une porte particulière, spirituelle, que Dieu veut ouvrir pour vous et va ouvrir pour vous. Et là, lorsque vous frappez et que l'on vous ouvre, vous entrez dans une dimension spirituelle encore plus grande et encore plus puissante. Amen. Donc voyez que le Seigneur établit ces 3 points de façon à ce qu'on entre dans sa présence. Lorsque l'on frappe et que Dieu nous ouvre, on entre pleinement dans le royaume de Dieu et dans la puissance du Saint-Esprit. Il y a les miracles qui sont là, il y a les guérisons qui sont là, il y a les choses cachées qui nous sont révélées. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette 3e étape. Mais toutes les étapes pour prier demandent du temps, d'accord? Celle qui demande le moins de temps, c'est le fait de demander. Mais les autres demandent du temps. Ça veut dire, tu veux une relation plus profonde avec le Seigneur? Alors choisis ton moment et puis dis, Seigneur, je prends ce temps pour toi. Alors vous prenez la parole de Dieu, vous prenez vos louanges et vous commencez à chercher. Et la présence de Dieu va descendre. Non seulement elle est là déjà dans votre cœur, mais également le Saint-Esprit va se manifester sur vous, en vous, avec vous. Vous allez réaliser les choses cachées que vous ne connaissez pas. Dieu veut se révéler. Amen. Et la réponse, vous voyez que le Seigneur dit, il dit bien, quiconque demande, donc c'est la première étape, la première prière, quiconque demande reçoit, c'est le plus facile. Et ensuite il dit, celui qui cherche, trouve. Cherchez, frères et sœurs, cherchons. Peut-être vous cherchez, vous aspirez aux dons spirituels, vous aspirez à une vie plus riche, plus abondante spirituellement, cherchez votre Dieu, demandez-lui. Il est celui qui donne. Vous savez, si le Seigneur a dit « aspirez aux dons les meilleurs », ça veut dire qu'il y a un désir dans notre cœur qui va monter et qui va être proposé au Seigneur. Et le Seigneur va répondre. Et vous allez voir des choses se manifester. Nous, chrétiens, nous sommes chrétiens de la Pentecôte. Nous sommes nés à la Pentecôte. L'Église est née à la Pentecôte. Nous allons bientôt fêter la Pentecôte. Et c'est là que l'Église est née. Elle est née comment ? Dans la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur les 120 et ils ont parlé en langue. Et ils ont commencé à prophétiser. On prophétise par l'Esprit des choses que l'on ne connaît pas, que l'on parle avec notre bouche, mais que le Saint-Esprit connaît lui-même. Donc ça, c'est la vie de prière. Lorsque vous approfondissez votre vie de prière, vous allez avoir l'esprit prophétique sur votre vie. Vous allez prophétiser sur votre travail, sur vos enfants, votre famille, sur les choses que vous voulez avoir. Vous allez parler comme si vous les aviez, parce que la prophétie, c'est établir les choses qui sont dans le spirituel et viennent sur la terre. Donc vous allez parler prophétiquement. Jésus a beaucoup parlé prophétiquement. Et même dans ce passage-là, il parlait prophétiquement. Jésus avait les 9 dons du Saint-Esprit sur sa vie. Et il se manifestait constamment. Donc, frères et sœurs, attachons-nous à la prière. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans des temps où ce n'est pas le moment de nous endormir. L'Église doit se tenir dans la prière. La prière nous conduira dans l'évangélisation. Je ne veux pas qu'on l'oublie, bien sûr. Mais notre vie de prière sera établie, alléluia, dans notre vie. Nous ne nous endormirons pas. Chaque jour, nous serons dans la prière. Chaque jour, nous aurons notre vie de prière bien établie. Et nous verrons de grandes choses. Alors j'aimerais ce matin que l'on découvre encore quelque chose. Nous allons aller dans 1 Samuel 12. Dans 1 Samuel, vous le savez sûrement, 1 Samuel 12, donc c'est Samuel qui nous parle d'une chose importante. Et là, je vais peut-être un peu vous surprendre, mais dans 1 Samuel 12, au verset 23, les Hébreux veulent un roi. Vous savez que Dieu était pour eux comme un roi. Ils veulent un roi comme toutes les nations. Et donc Samuel va leur permettre d'avoir ce roi, mais il va leur dire quelque chose d'important, verset 23. Il va dire au verset 22, « L'Éternel n'abandonnera pas son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. » Et Samuel va dire, « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel et de cesser de prier pour vous. » Et là, vous voyez, ce verset est très important. Il nous rappelle notre appel en tant que chrétien. Samuel dit, « Si je cesse de prier, je pêche. » Alors certains d'entre vous dites, oh là là, moi qui prie que de temps en temps, donc je pêche. Ben oui, repentez-vous, frères et sœurs. En tant que chrétiens, nous avons besoin de prioriser notre vie de prière et d'être fidèles chaque jour à notre Dieu dans la prière. Et c'est pourquoi Samuel dit, je pêche quand je ne prie pas. Et loin de moi l'idée de pécher, je vais prier pour vous. Alors aujourd'hui, nous sommes sous la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas sous la condamnation. Mais l'appel est le même. Le Seigneur nous appelle à prier. Le Seigneur nous appelle à prier pour l'Église, pour les saints, pour ce monde, pour vos besoins. Il nous appelle à la prière. Il y a un appel qui est lancé dans cette Église à la prière. Parce que le Seigneur, parce que Samuel dit, loin de moi, le fait de pécher et de ne pas prier, de ne pas me tenir dans la prière. Quand nous avons reçu le Saint-Esprit nous conduit dans la prière. La prière, c'est la respiration des saints. La prière, c'est ce qui fait qu'on comprend les choses, on sort des ténèbres, on n'est plus dans la confusion. La prière nous établit dans le royaume de Dieu par la foi, mais également nous maintient dans les choses de Dieu. La prière, c'est notre respiration. Alors, j'aimerais qu'on regarde un point ce matin dans la parole de Dieu en ce qui concerne Job. Job vivait un moment difficile. Il était accusé par des amis. Hein? Job 21, on peut le prendre. Alors c'est juste, je crois, avant les psaumes. Voilà, Job 21. Qu'est-ce qui se passe? Il a des amis, mais ce sont des faux amis. Hein? Qu'est-ce qu'ils font, ces amis? Eh bien, ils le condamnent parce qu'il est, testé dans sa vie. Il a un test terrible. Il a tout perdu. Il est malade. Et il réclame justice et il dit à ses amis, je n'ai rien fait de mal, je n'ai pas péché, je ne suis pas injuste, je sais que Dieu va me libérer. Et ses amis lui disent, mais si, tu vois comment tu es là, tu n'as plus rien, tu as tout perdu. Donc, tu es quelqu'un qui a péché. Tu es une personne qui a été rejetée par Dieu. C'est Dieu qui te punit. Vous savez, ne soyons jamais comme cela. Quand vous avez une personne, un chrétien qui passe par une épreuve, nous savons que Dieu est avec la personne. Et n'ayons jamais un esprit de jugement. J'ai connu dans le passé des personnes qui avaient un esprit de jugement. Dès qu'il y avait une personne qui passait par une épreuve, il y avait le doigt qui était pointé là, sur sa vie. Non, 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 non. On passe tous par des épreuves parce que nous sommes sur la terre. Il y a des tests, il y a des difficultés. Un jour, on est là, demain, on ne sait pas comment les choses vont passer. Mais si on a une vie de prière, si on maintient notre foi et notre communion avec Dieu, nous traverserons toutes les épreuves victorieusement. C'est-à-dire, nous nous rapprocherons de Dieu. En fin de compte, Job est testé là. Il a tout perdu. On sait, quand on étudie ce livre, que c'est un test, que Satan veut le détruire et que le Seigneur a permis cette situation. Et donc, on voit qu'il est testé. Mais Job, il a l'assurance dans sa vie d'être droit devant Dieu. Il se sent juste, il ne se sent pas condamné. Il dit, non, je n'ai rien fait pour mériter cela. Donc, ma libération viendra de mon Seigneur. Je ne doute pas. Alors, regardez ce qu'il va dire sur la prière. C'est très important. Prenez Job 21. Il va parler, si vous voulez, des méchants, parce que ses amis, qui sont des faux amis, l'accusent d'être comme les méchants. Tu as perdu la grâce de Dieu, tu as perdu l'amour de Dieu, tu es dans l'épreuve. Ça veut dire que tu n'es pas droit, tu n'es pas juste devant Dieu. Vous voyez ? Donc il l'accuse. Alors vous voyez, Job va répondre. On va lire un petit peu sa réponse ici dans le chapitre 21. Il dit au verset 3, « Laissez-moi parler, je vous prie. » Et quand j'aurai parlé, alors tu pourras te moquer. Est-ce contre un homme que se dirige ma plainte ? Il dit, est-ce que je me plains vis-à-vis des gens ? Non, ma plainte se dirige vers le Seigneur. Ça veut dire que Job, dans son épreuve, il parle à Dieu. Il dépend du Seigneur. Il ne se sent pas coupable, mais il sait que son Dieu l'aime et que son Dieu lui rendra justice. Donc il ne doute pas. Il est accusé. Vous savez qui est l'accusateur des frères ? Satan. Satan accuse. Et peut-être que vous avez déjà été accusé dans votre conscience parce que vous ne faisiez pas ce qu'il convient de faire. Mais dans le Seigneur, vous vous rétablissez dans une bonne position parce que le Seigneur, lui, nous relève toujours. Il ne nous accuse pas. Satan est l'accusateur. Et là, vous voyez que Job, il est accusé par ses amis. Et il dit, non, je ne cherche pas... Je ne cherche pas à diriger ma plainte vers les gens, vers les hommes. Non, je l'adresse à Dieu. Il dit, est-ce contre un homme que se dirige ma plainte ? Et pourquoi mon âme ne serait-elle pas impatiente ? Je souffre, c'est normal que mon âme désire être délivrée. Mais je suis tournée vers le Seigneur. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Il dit, regardez-moi et soyez étonnés. Et mettez la main sur votre bouche. Qu'est-ce qu'ils ont dit auparavant, ses amis ? Ils ont dit, tous ceux qui perdent leur bien, tous ceux qui sont éprouvés sont des méchants. Tous ceux qui vivent mal, à qui il arrive des malheurs, sont des gens qui ont rejeté Dieu ou qui vivent sans Dieu. Voilà ce que lui disent ses amis. Pourquoi ? Parce qu'ils font un parallèle avec lui, bien sûr. Lui qui a tout perdu et qui est éprouvé. Alors, Job leur répond. Vous comprenez pourquoi ? C'est intéressant de comprendre comment il va le répondre. Et il va dire, regardez-moi et soyez étonnés. Hein? Et mettez la main sur votre bouche, ça veut dire taisez-vous. Hein? Et quand j'y pense, quand je pense à cela, je suis épouvanté. Et un tremblement saisit mon corps. Et il dit, pourquoi les méchants vivent-ils ? On va voir ce que sont les méchants hein, dans la parole de Dieu. Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force ? Leur postérité s'affermit avec eux et en leur présence... Leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux, leur maison, il y a de la paix, sans mélange de crainte, la verge de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont vigoureux, leurs génisses conçoivent, et ils laissent courir leurs enfants comme des brebis. Les enfants prennent leur ébat, ils chantent au son du tambourin, etc. Ils se réjouissent, Ils passent leurs jours dans le bonheur. Vous savez, c'est juste. Hein? Le Seigneur a dit, avant mon retour et avant que Noé entrât dans l'arche, les gens vivaient bien, ils se réjouissaient, ils mangeaient, ils buvaient, ils mariaient leurs enfants. Mais à un moment donné, le Seigneur a dit, Noé entre dans l'arche. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui souffre, bien sûr, mais il faut quand même voir qui souffre vraiment, hein, et qui a des problèmes et qui se lamente, n'est-ce pas? Mais les gens mangent et boivent, se marient, se réjouissent, se distraient, n'est-ce pas? Mais un jour, eh bien, le Seigneur fermera la porte de la grâce et l'Église partira. Un jour, ce sera fini. C'est pourquoi, pendant que c'est le temps de la grâce, eh bien, faisons entrer les gens dans l'arche qui est l'Église. L'Église de Jésus-Christ, c'est une arche sur la terre. C'est une arche de protection. C'est une arche de sécurité. C'est une arche d'amour. C'est une arche où nous grandissons dans la connaissance de Dieu. Mais un jour, la porte sera fermée, vous le savez bien. Un jour, l'Église va quitter cette terre. Quand je parle de l'Église, c'est l'Église dans le monde entier. Quittera cette terre et le Seigneur va la rejoindre dans les airs. C'est écrit dans l'Épître aux Thessaloniciens. Donc, nous devons nous préparer pour ce jour. Mais nous devons également savoir que nous sommes dans ce genre de société. Les gens se réjouissent. Ce n'est pas parce que vous avez des épreuves que vous êtes quelqu'un de méchant. C'est ce que lui disent ses amis. Ce n'est pas parce que vous avez peut-être perdu quelque chose ou fait des erreurs et que vous passez par une épreuve financière ou quoi que ce soit que vous êtes rejeté et que vous êtes considéré comme quelqu'un qui n'est pas béni. Vous comprenez? C'est simplement un test. Mais nous nous relevons des tests parce que nous sommes en communion avec le Seigneur. Et nous restons dans l'épreuve. Qu'est-ce qui se passe? On se rapproche de Dieu. On se rapproche dans la prière. On cherche Dieu. N'est-ce pas vrai? Alors regardez, il se défend cet homme. Il est éprouvé, il a tout perdu. Et il est accusé en plus d'être un méchant, d'avoir rejeté Dieu. Et il dit, regardez, mais les méchants, ils sont bénis. Ils ont tout. Mais d'un seul coup, regardez au verset 13, ils passent leur jour dans le bonheur et ils descendent dans le séjour des morts en un instant. C'est fini pour eux. Et regardez le verset 14. Le verset 14 va vous montrer ce que dans la Bible, ça veut dire un méchant. Un méchant, c'est quelqu'un qui connaît, qui sait qu'il y a un Dieu, mais qui n'en veut pas. C'est ça, le méchant. Vous comprenez? Alors regardez, Job l'explique très bien à partir du verset 14. Il dit, ces gens-là qui vivent bien, qui ont tout, qui profitent de la vie, nous aussi, nous vivons bien, nous avons tout. Mais nous vivons pour Dieu. Ces gens vous diront peut-être, « Ouais, moi aussi, je crois en Dieu. » Oui, mais est-ce que tu vis pour Dieu? Nous vivons pour Dieu, nous les chrétiens. Nous vivons pour Dieu. Hein? Alors regardez ces gens que Job appelle les méchants. Voilà comment ils pensent, voilà ce qu'ils disent. Verset 14, « Ils disaient pourtant à Dieu, « Retire-toi de nous. » Retire-toi de nous. Donc ils savent qu'il y a un Dieu. Ils savent que marcher avec Dieu demande un sacrifice. Marcher avec Dieu demande un choix de vie. N'est-ce pas vrai? Alors ils disent, retire-toi de nous. Nous ne voulons pas connaître tes voies. Aïe, c'est clair. Nous ne voulons pas connaître tes voies. Pourquoi? Ça va nous demander trop de changements. Nous aimons bien les distractions et la vie que nous menons. On ne veut pas changer. Alors, on sait ce que tu nous demandes, mais on n'en veut pas. Et il dit, retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Ça veut dire, ils n'ont aucun respect de Dieu et ils n'ont pas de crainte dans leur cœur, la crainte de Dieu. Vous savez, Salomon a dit, la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Lorsqu'on vit notre vie de chrétien, on la vit dans la liberté, c'est vrai, dans la joie. Mais on a le respect de Dieu. On sait ce qu'il attend de nous. C'est qu'on a la crainte de Dieu dans notre cœur. C'est nécessaire de l'avoir. On ne vit pas comme des anarchistes avec dire « Oui, je connais Dieu, mais je fais ce que je veux. » Non, on a la crainte qui vient dans notre cœur. C'est le début de la sagesse. Amen. Alors donc, ces gens, vous voyez, eh bien, ils disent des choses, ils pensent des choses parce qu'ils connaissent Dieu. Ils savent ce que Dieu leur demande. Et Job explique bien, voilà, Voilà des gens qui sont dans cette position. Nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions ? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières ? Frères et sœurs, ce sont des gens qui ne veulent pas prier. Ce sont des gens qui ne veulent pas soumettre leur vie au Seigneur. Vous voyez ? Qui savent qu'il est là, qui savent qu'il y a un Dieu. Ils ont peut-être entendu l'Évangile. Ils savent qu'ils ont un pas à faire, mais ça leur demande trop d'efforts. Ils aiment trop leur vie. Rappelez-vous que le Seigneur a parlé des semences qui est la parole de Dieu qu'on reçoit dans les cœurs, dans des terrains différents. Et il y a des terrains où les soucis de la vie, les distractions, les problèmes de la vie vont étouffer la parole. Mais ces gens-là ont décidé non, on ne veut pas de toi. Et donc c'est terrible cela, vous voyez. Et il dit, pourquoi est-ce qu'on t'adresserait nos prières ? Et alors Job répond à ses amis, ils ne sont pourquoi ils pensent comme ça ? Et pourtant ils sont en possession du bonheur, soi-disant. Et ils pensent comme cela. Frères et sœurs, ce qui est terrible, c'est que lorsque nous nous éloignons de la prière, il n'y a plus de protection pour nous. Lorsque nous nous éloignons de la prière, eh bien, nous ouvrons les portes aux ténèbres. La confusion vient. L'incrédulité reprend sa place. Les doutes et les pensées que nous avions avant vont essayer de revenir parce que notre vie n'est plus soumise au Seigneur. La prière est nécessaire. Jésus lui-même priait. Je lisais ce matin très tôt que Jésus, à Capernaum, a fait des miracles, a fait des choses merveilleuses. Ensuite, il a dit à ses disciples, « Allez, montez tous dans la barque et partez de l'autre côté. » Et lui, il est monté sur la montagne pour prier. S'il avait besoin de prier, lui, le Fils de Dieu, et de se ressourcer, et de parler à son Père, combien nous avons besoin tous les jours d'avoir la relation avec le Seigneur. Amen. Donc vous voyez, le manque de prière va amener de la confusion. Nous allons entendre plusieurs voix, les voix de ce monde, les concepts de ce monde. Et je vous dis, c'est subtil. Le manque de prière va nous déstabiliser dans notre vie chrétienne. Notre feu pour Dieu va s'atténuer. Notre zèle pour Dieu va se disparaître. Et nous allons être conformes avec ce monde. Qu'est-ce qui entretient votre feu, votre joie, votre zèle ? C'est votre communion avec Dieu. C'est votre prière, c'est le fait qu'on se rassemble ensemble, qu'on se fait du bien. Si quelqu'un se sent un peu tiède, eh ben, le Seigneur va le fortifier au contact de ses frères et sœurs. Il y a le feu de Dieu qui va reprendre dans son cœur. Et la vie et le désir de prier. Mais lorsqu'on se retire de la prière, eh bien, ces pensées que ces gens que la Bible, Job, appelle les méchants, ces pensées vont revenir. Pourquoi est-ce que je prierai ? Et puis votre amour pour Dieu va se refroidir. Et ça, c'est dur, c'est terrible, parce que notre amour pour Dieu a besoin toujours d'être fort. Parce que tout ce que nous faisons, ne faisons pas par devoir, nous le faisons par amour. Servir Dieu, c'est par amour. Évangéliser, c'est par amour. Par amour pour les âmes, par amour pour le fait que le Seigneur est mort pour l'humanité entière. Donc, frères et sœurs, tout ce que nous le faisons par amour. Lorsque nous ralentissons et nous mettons de côté notre vie de prière, nous nous exposons. Nous nous exposons aux ténèbres et nous risquons d'ouvrir une porte à l'ennemi. Il y a un serviteur de Dieu qui raconte qu'il trouve que dans son ministère, c'est un évangéliste, il y a tellement de chrétiens opprimés, oppressés par des démons. Ils ont des dépressions extrêmement oppressées. Et il dit « c'est pas normal ». Alors que des jeunes chrétiens le soient, oui, parce qu'il y a des gros problèmes aujourd'hui, il y a des divorces, il y a des séparations, des vies brisées, il y a beaucoup de choses qui font souffrir l'âme humaine, d'accord ? Mais quand des chrétiens qui sont chrétiens depuis des années sont oppressés d'une façon démoniaque, ce n'est pas normal, parce que Dieu nous a libérés. Il faut rester libérés. Et souvent, dans la vie de ses frères et sœurs, il y a un manque de prière. Il y a un manque, les gens se sont refroidis, ils ont mis de côté la communion avec le Seigneur, ils ont arrêté d'entrer dans cette recherche de Dieu qui fait que notre cœur le cherche. Notre cœur le cherche. Hein? Cherchez et vous trouverez. Frappez. Ça veut dire allez plus haut et on vous ouvrira. On vous ouvrira des révélations extraordinaires dont vous n'avez encore pas idée. Ça c'est pour nous, c'est notre héritage. C'est par le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, si nous nous relâchons dans notre vie de prière, nous nous ouvrons à des ténèbres. Et ce n'est pas bon pour nous. Et les gens qui ne prient pas, eh bien, ont perdu la crainte de Dieu. Et lorsqu'on prie, eh bien, cette crainte de Dieu, ce respect de Dieu reste dans notre cœur. C'est très important de protéger notre vie de prière. N'est-ce pas? Il y a des temps difficiles qui arrivent dans le monde, vous le savez. Hein, le monde va mal, les gens souffrent dans tous les continents aujourd'hui. Il y a beaucoup de guerres et il y a des choses terribles qui se passent. Comment est-ce que l'Église peut se passer de prier? On ne prie pas que pour nous, on n'en est plus à « bénis-moi Seigneur, bénis-moi ». Dieu nous a bénis, c'est fait. Mais notre appel, c'est de prier aussi pour le monde, c'est de prier pour les gens, c'est de prier pour ceux qui souffrent. C'est de prier pour des situations dans les nations. L'Église est appelée à prier, vous comprenez? On ne peut pas se relâcher, on a un appel et j'aimerais que ce matin, cela corresponde à quelque chose dans votre cœur. Vous avez un appel, nous avons un appel, il y a des nations qui souffrent. La prière des saints a une grande efficacité. Elle va bouger des situations, elle va chasser des esprits méchants, elle va arrêter les meurtres, elle va changer les choses. Croyez-le, notre prière est puissante. Et lorsque nous nous assemblons pour prier, l'Église est puissante dans la prière. Amen. Dieu répond à cette prière. C'est pourquoi je vous dis, les temps difficiles arrivent, mais il est dit que si nous nous relâchons dans la prière, nous n'aurons pas de force pour subsister. Rappelez-vous de Jésus. Jésus devait passer par cette étape de Gethsémané. Hein? Il est passé juste avant de mourir sur la croix. Il est passé par une étape extrêmement douloureuse. Spirituellement, il a dû prendre une coupe de malédiction. Il a dû prendre toute la malédiction du péché, boire cette coupe, c'est-à-dire accepter ce qui allait se passer. Il allait devenir péché sur la croix. Il a dû accepter cela. Et c'était extrêmement douloureux. Il se jetait sur la terre. Il se jetait par terre, il souffrait et il criait, « Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. » Et les disciples, ils dormaient. Et Jésus leur dit, « Vous n'avez même pas pu dormir une heure, vous n'avez même pas pu prier une heure avec moi. » Ça veut dire que le Seigneur avait besoin de la prière de ses disciples. Il avait besoin du soutien. Alors le Père a envoyé les anges pour le soutenir. Mais les disciples, ils étaient KO. Ils avaient sommeil. C'était la nuit. Et eux, ils dormaient. Mais Jésus leur dit, pourquoi vous ne priez pas? J'ai besoin de vous. Comprenons bien la puissance de la prière. Comprenons bien notre place dans la prière. Comprenons bien notre responsabilité dans la prière. Je ne vous dis pas ça pour vous mettre sous une culpabilité quelconque, frères et sœurs, mais pour vous placer devant l'appel de Dieu. Il y a des fruits que vous porterez grâce à la prière. Il y a une dimension extraordinaire dans laquelle vous allez entrer par la prière. Il y a des situations que vous ne connaissez pas, que vous allez débloquer. Quand vous serez au ciel, le Seigneur va vous dire, regarde, ça c'est ton temps de prière tel jour. Regarde, cette personne a été protégée. Cette personne ou cet enfant a pu être protégé ou sauvé. Il y a des choses lorsque nous prions par l'Esprit. Lorsque nous demandons à Dieu, Seigneur, utilise-moi. Intercède au travers de moi. Frères et sœurs, c'est Jésus qui a le ministère d'intercession. Il intercède pour nous aujourd'hui. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour son Église. Vous êtes d'accord? Pour que nous entrions dans son intercession. Pour que par l'Esprit nous intercédions avec lui. Lorsque l'Église entre dans cette prière d'intercession, la prière que le Seigneur lui-même a aujourd'hui, eh bien des situations s'ouvrent, des situations sont débloquées, des ténèbres reculent. Il y a un combat sur cette terre. Amen. Nous l'avons chanté tout à l'heure, et Dieu est puissant dans les combats quand nous participons avec lui. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Est-ce que vous sentez encouragé à prier? Simplement à entrer dans ces trois étapes et qui ne se font pas du jour au lendemain, mais qui sont progressives. Mais en même temps, là, Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à entrer dans cette étape. Alléluia. Donc, si vous voulez, lorsque nous connaissons bien le psaume 91, lorsque nous sommes dans la prière, il y a une place de sécurité. Amen. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, il demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a une place de sécurité lorsque vous vous placez en communion avec le Seigneur au travers de la prière. Hein? Si vous lisez le psaume 91, vous savez que vous êtes en sécurité. Dieu éloignera les dangers, Dieu éloignera le malheur, les tragédies, les choses démoniaques, vous serez protégés à cause de votre vie de prière. Vous marcherez dans la lumière grâce à votre vie de prière. Amen. On ne peut pas la négliger, frères et sœurs. On doit la développer et la développer. Alléluia. Le proverbe 27 nous dit, chapitre 27, verset 12, je vais vous le dire, « L'homme prudent, c'est celui qui prie. Il voit le malheur et il se cache, tandis que le simple ou l'ignorant passe outre et reçoit, il est dit, une conséquence de cela, ça veut dire les ignorants sont punis. Ça veut dire ils reçoivent des choses mauvaises sur cette terre parce qu'ils manquent de prière. Amen. Vous me suivez, mes frères et sœurs, là ? Donc, un homme sage et prudent prie et il voit arriver les problèmes. Il voit arriver les situations adverses. Il est prêt. C'est ce que Dieu nous dit. Veillez et priez afin que vous soyez prêts lorsque les choses vont arriver, que vous releviez votre tête, que vous ne soyez pas écrasés, que vous ne soyez pas sans espérance ou bouleversés par les choses qui arrivent autour de vous, mais que vous restiez fermes. Et ça, c'est notre vie de prière. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, notre vie personnelle dépend beaucoup de notre vie de prière. Notre épanouissement personnel dépend beaucoup de notre relation avec le Seigneur. Le fait que nous marchions avec Dieu et que nous ayons une marche victorieuse, triomphale, dépend de la qualité de notre vie de prière. Et l'Église, elle a cet appel de prier. Et elle ne prie pas que pour elle, mais elle prie pour tous ceux qui en ont besoin. Nous prions pour quoi ici ? Nous prions pour vos familles, nous prions pour ceux qui passent par des épreuves, nous prions pour cette ville, nous prions pour ce pays, nous prions pour des nations en guerre. Nous avons une grande image devant nos yeux. Nous avons une action. L'Église a une action. Nous nous tenons ensemble. C'est pourquoi Dieu vous appelle, Dieu nous appelle à être là. Nous prions pour les orphelins, nous prions pour les gens qui sont démunis. Nous prions tant que l'Église, et quand je dis l'Église avec un grand E, est sur la terre, elle a une action puissante. Elle empêche les ténèbres de faire quoi que ce soit. Elle maintient la lumière de Dieu sur la terre et elle développe cette lumière. Mais quand l'Église ne prie plus, eh bien les ténèbres prennent leur place. Ils reprennent le terrain. Nous sommes à Vichy, c'est une ville qui a un passé. Mais il y a de la prière dans cette ville. Il y a de la lumière dans cette ville. Il y a un mouvement de Dieu qui viendra dans cette ville. Parce que les saints prient. Parce que les saints ont demandé pardon au passé, à ce qui s'est passé, se sont humiliés, ont eu le cœur brisé par le passé de ce qui s'est passé il y a plus de 60 ans dans cette ville. Et ils disent à Dieu, donne-nous une nouvelle chance, Seigneur. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors nous prions pour que cette ville soit visitée, pour que ces quartiers soient visités, pour que ces gens soient touchés, comme nous l'avons été. Alléluia, c'est l'Église. Amen. Alors simplement, je ne veux pas insister plus, mais rappelons-nous que l'apôtre Paul a dit une chose dans 1 Corinthiens, « Je tiens mon corps assujetti, afin de ne pas pécher contre Dieu. » Moi qui ai prêché aux autres, je ne voudrais pas être rejeté. Ça veut dire que, vous voyez, pour prier, il faut tenir notre corps. Parce que notre corps, il n'a pas envie d'aller prier. Quand il y a la prière, on a envie de faire toutes sortes de choses. Et ça, c'est vrai. Tout le monde expérimente. Et notre corps veut justement aller faire des courses. Justement, il y a un truc urgent. Il y a du travail à la maison. Il y a du travail au bureau. Il y a un coup de téléphone à passer. On a tellement de choses à faire. Donc, on est obligé de tenir notre corps assujetti, dire non. Je prends ce temps et je le prends. Et tais-toi, mon corps obéit. Tenir son corps assujetti, c'est ne pas suivre toute la volonté de notre chair, de notre corps, de notre chair aussi. Hein. La chair, vous savez, ce n'est pas notre corps uniquement. La chair, c'est la pensée irrégénérée que nous avons dans notre vie. Amen. Donc, tenons notre corps assujetti. Et quand il y a un temps où nous sommes tranquilles, peut-être les enfants sont couchés, et il y a un temps de tranquillité, vous avez regardé votre programme de télévision, peut-être la veille, et vous vous êtes dit, tiens, aujourd'hui, je ferme la télé, c'est pour mon Dieu. Je vais vous dire, Dieu vous le rendra. Dieu vous le rendra. Vous prenez votre Bible, vous fermez votre porte, et vous entrez dans la communion avec le Seigneur. Vous dites à votre tête, tais-toi, arrête-toi de tourner. Hein? Alors pour cela, il vous faut un moment, hein? La tête, ça travaille. Et puis, petit à petit, la présence de Dieu descend. Et vous entrez dans la prière vraiment avec votre Dieu. Vous entrez en communion. Vous passez ces trois étapes de demander. Et puis ensuite, vous cherchez le cœur de votre Dieu. Et vous cherchez Dieu. Et puis ensuite, vous frappez parce que vous voulez plus. Vous voulez que votre vie porte du fruit. Vous voulez avoir les dons spirituels. Vous voulez avoir des talents. Ces talents qui sont en vous, vous voulez qu'ils s'expriment. Alors vous parlez à votre Dieu. Et Dieu vous répond. Amen. On va s'arrêter là, frères et sœurs. J'espère que vous êtes encouragés ce matin et que vraiment l'esprit de prière est en train de travailler dans ce lieu. Alléluia. Et que vos cœurs sont en train de s'ouvrir et que Dieu est en train de vous parler. Je crois que Dieu vous parle et est en train de vous parler en ce qui concerne votre vie personnelle et afin que vous entriez dans ces étapes différentes et que vous puissiez vraiment être sérieux avec Dieu. Amen. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes dans des temps où les choses ne vont pas s'arranger et nous avons besoin d'être sérieux avec Dieu. Nous ne savons pas quand Jésus va revenir, mais Jésus a promis qu'il reviendrait. Aujourd'hui, les prophéties sont accomplies et il n'y a pas grand-chose encore qui doivent s'accomplir. Nous avons besoin d'être prêts. Et je ne peux pas être prête si je néglige la prière. Quand je prie, Dieu me parle. Prier, c'est parler à Dieu. J'ai un rendez-vous avec le Seigneur. Quand je cherche sa face, il va se révéler à moi. Jérémie 33 déclare, hein, je te donnerai des choses, demande-moi, et je te donnerai, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Hein? Donc cherche le Seigneur. Amen. Il se révélera à toi par son esprit, et il te montrera des choses que tu ne connais pas. Amen. Alléluia, prions ensemble, frères et sœurs. Fermons nos yeux. Alléluia, demandons à Dieu qu'il mette sur notre vie vraiment un manteau de prière. Alléluia, s'il y a des personnes qui ont du mal avec la prière ce matin, je crois que Dieu va faire un miracle et changer, vous faire avancer dans son plan, vous faire avancer dans son amour, vous faire avancer dans le sens des responsabilités, vous faire grandir en deux mots. Alléluia, merci Père, alléluia, prions ensemble. Merci mon Dieu. Faisons monter vers Dieu notre prière ce matin. Oh merci Père, pour l'esprit de prière au milieu de nous Seigneur. Merci pour la grâce de Dieu. Alléluia, nous croyons Seigneur que tu répands sur chacun de nous ce manteau de prière qui fait que nous aurons les genoux par terre afin d'intercéder, de prier avec toi Seigneur. Pour tous ceux qui en ont besoin autour de nous, pour nos familles, pour nos bien-aimés, Seigneur, mais également pour tous ceux qui nous entourent, pour ce monde qui souffre, Seigneur, merci. Tu nous appelles, il y a un appel dans l'esprit, il y a un appel à la prière, il y a un appel à ouvrir notre cœur et à entrer dans la prière ce matin. Alléluia, il y a un appel à prendre des fardeaux de prière et à les porter devant Dieu. Il y a un appel. Dieu nous appelle, Dieu vous appelle, Dieu nous appelle ensemble. Alléluia, Saint-Esprit, révèle-toi. Oh, à chaque vie, chaque cœur, de ce que tu veux pour chacun, Seigneur. Père, merci pour les temps qui sont mis à part, afin qu'il y ait une prière qui soit puissante dans la vie de tes bien-aimés. Alléluia, que chacun puisse grandir, répands ton esprit, Seigneur. Alléluia. Oh, parle au cœur ce matin. Alléluia, tu parles à nos cœurs. Éclaire-nous, Seigneur, sur nous-mêmes, afin que nous soyons efficaces, que nous portions de bons fruits sur cette terre, que nous soyons en bénédiction à tous ceux qui nous entourent. Oh, que nous soyons une bénédiction au monde. Père, merci. Alléluia. Alléluia, alléluia. Prions. Alléluia. Oh, répands ton esprit, Père. Abondamment, Seigneur, révèle-toi. Alléluia. Seigneur, appelle les cœurs. Appelle chacun. Alléluia. À venir dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Chaque jour que Dieu fait, tandis que nous sommes sur cette terre, nous avons besoin de prier pour tous les saints, de prier, alléluia, afin que le monde vienne à Christ, alléluia, alléluia, oh, alléluia, Nous prions dans la victoire de Jésus. Nous prions, Père, alléluia, parce que tu as porté nos péchés sur la croix et que tu nous as placés, allez, à ton niveau, Seigneur. Tu as fait de nous des fils et des filles du Dieu vivant. C'est pourquoi nous pouvons prier avec assurance. Nous pouvons nous tenir avec assurance devant le trône de Dieu et demander, aspirer à des choses nouvelles, aspirer à un mouvement de Dieu. Alléluia. À prier pour ce pays de France. Alléluia. Afin qu'il vienne à Dieu, qu'il se tourne vers toi. Oh, redemachor de Maha. Oh, priez pour les autorités qui nous dirigent. Alléluia. Oh, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Qu'il y ait de la paix sociale. Alléluia. Priez pour ce qui se passe en Europe. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, mais on peut prier pour l'Église là-bas. On peut prier pour l'Église dans le monde entier. Alléluia. Oh, redemachokoma. Alléluia. Oh, redema. Seigneur, merci de libérer, Seigneur, l'esprit de prière ce matin. Alléluia. Dans la vie de chacun et de chacune, dans nos vies, Seigneur, afin que nous ayons de grandes victoires. Alléluia. Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen.